L'Évangile de Jean, au chapitre 8, et à partir du verset 30, nous étions restés au verset 29. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais maintenant lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
Amen.
Ce passage finit tout autrement qu'il ne commence. Il commence par une fois, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs, c'est déjà un assez bon groupe. Ça ne veut pas dire quelques-uns, mais un groupe, un certain nombre de ceux-là, et ceux qui crurent alors en lui, comme le texte le dit, étaient des Juifs, c'est-à-dire qu'ils étaient parmi les adversaires, les contestataires de Jésus. Il y avait donc aussi là des pharisiens. Et qu'est-ce que cela veut dire, ils crurent? Alors que nous voyons que ces mêmes hommes, dans la suite, vont durcir leur position, contester plus avant, montrer qu'ils sont attachés aux vues de la terre et ne peuvent pas vraiment s'en détacher, si bien qu'ils ne comprennent pas la portée des paroles du Seigneur, ce sont ces hommes qui crurent. Il n'y a pas ici deux sortes d'hommes, deux groupes qui se constituent dans les auditeurs du Seigneur Jésus en cette occasion, dans le temple de Jérusalem. Il n'y en a pas deux, mais ce sont les mêmes. Parmi ceux-là, il y en a qui croient, et ceux qui croient vont devenir tout à l'heure de nouveau les contestataires. Eh bien, nous allons voir cela. Les paroles de Jésus, si extraordinaires, ne pouvaient tout de même pas être entendues comme celles qu'aurait prononcées un visionnaire égaré, car si un homme avait prononcé les paroles de Jésus, n'étant pas Jésus, il n'aurait été qu'un simple visionnaire, un visionnaire égaré, un illuminé, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas? Il n'aurait été que cela. Et les paroles d'un illuminé peuvent intéresser, susciter une certaine curiosité, mais n'ont pas attiré vraiment à la foi des personnes nombreuses. Eh bien, les paroles de Jésus ne pouvaient donc pas être considérées ainsi, parce qu'elles portaient une autorité véritable. Ne l'oublions jamais, ces paroles étaient des paroles d'autorité, non seulement de la vérité pure. On peut dire que les paroles de Jésus, sous la seule réserve de l'infirmité du langage humain, n'est-ce pas? Mais les paroles de Jésus sont la parole de Dieu, cette parole de Dieu, cette fois épurée. S'il y a des difficultés de la saisir, de la comprendre, de serrer son sens, c'est dû à l'infirmité du langage, et c'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Il faut absolument le Saint-Esprit pour cette raison déjà, n'est-ce pas? C'est que dans ce moule qui est, en somme, ou plutôt disons dans ce vase qui est bien impur, bien imparfait, là sont placés les trésors de Dieu, les trésors de la parole de Dieu. Et malgré tout, les auditeurs du Seigneur ne peuvent pas échapper à l'autorité de ces paroles. De même, ils ne peuvent pas ne pas ressentir ce qui rayonne de la personne du Seigneur Jésus, c'est-à-dire cet amour qui est une puissance, qui est un flux invisible, mais un flux qui va toucher, qui va ébranler même les plus mauvais. Ils ne peuvent pas ne pas ressentir cet amour, la paix qui est dans la personne de Jésus, malgré la sévérité et la rigueur de ses paroles. Et là, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que ces nouveaux croyants, les croyants qui apparaissent ici, parmi les contestataires, parmi les juifs attachés à leur tradition, sont des gens que les paroles et la personne de Jésus captivaient et attiraient parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et ils auraient cependant conservé, nous voyons qu'ils conservent d'ailleurs, des pensées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas droites, ils ne sont pas dépouillés, ils ne vont pas d'ailleurs se dépouiller de leurs propres pensées, mais cependant, ils ont cette foi, cette foi du moment, qui est l'attrait exercé par la personne du Seigneur Jésus. Ce sont en somme des croyants de même sorte que ceux dont parle cet évangile de Jean, chapitre 2, versets 23 et 24. Nous l'avons déjà vu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom ou en lui, ou en ses paroles, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Voyez-vous, il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il lit dans leurs pensées, n'est-ce pas ? Il voit que cette foi n'est que un mouvement qui cède à l'attrait, n'est-ce pas, mais n'est que momentané et superficiel. Voilà ce que nous dit l'évangile de Jean. D'ailleurs, l'évangile de Jean dit, il dit aux juifs qui avaient cru en lui, des juifs, c'est-à-dire des gens très attachés à la synagogue, n'est-ce pas, qui crurent en Jésus. C'est quelque chose déjà d'extraordinaire. Mais ils croient de cette manière-là. Et nous allons voir que leur foi va vite, bien vite, être dissipée. Et il y a pour nous, en tout cela, une très grande leçon, mes amis, que nous avons oublié. Nous nous imaginons que les Juifs étaient des gens spéciaux. Pas du tout, nous voyons au contraire dans tous les évangiles que s'ils avaient quelque chose de spécial en ce sens que leur religion émanait de la loi de Moïse, surchargée bien entendu d'une foule de traditions, malgré tout, ces Juifs étaient des hommes comme les autres. Et le péché en eux est le péché de tous les hommes. Leur réaction sont les réactions que l'on rencontre aujourd'hui encore. Bah, que des gens soient attachés au catholicisme ou soient attachés au marxisme, ils sont toujours attachés à quelque chose, n'est-ce pas ? Ou à leur propre pensée, plus ou moins nourrie de telle ou telle idéologie, ils sont attachés à quelque chose et ils ont les réactions des Juifs. Et ça, c'est pourquoi tout cela est infiniment actuel. Les réactions des hommes sont celles-là. On a beau être au temps de la fusée, au temps du voyage dans la Lune, n'est-ce pas, les réactions des hommes n'ont pas changé, absolument pas changé, elles se sont peut-être accusées, c'est tout. La foi de ces hommes est donc fragile. Il aurait fallu, Jésus leur dit, quelque chose qu'ils ne font pas, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. À ceux qui croient, n'est-ce pas, il leur dit, ouais, voilà, ben c'est bien, vous avez, mettons, un commencement de foi. Mais il faut faire plus. Ne n'en restez pas là. S'il faut demeurer dans ma parole, alors là, vous serez vraiment mes disciples. Ils ne sont pas vraiment ces disciples-là. Cette foi n'est que, ce qui répond à l'attrait exercé par la parole et la personne du Seigneur, mais c'est très superficiel, c'est très fragile et c'est très momentané. Il faudrait que cette foi se fixe. Il faudrait qu'elle s'établisse solidement sur son fondement. La foi a un fondement. Le fondement, c'est le fondement de Christ, la parole de Christ. Il faudrait que cette foi s'enracine. Ah, mais sans ça, elle va rester, comme la parabole de Jésus nous le montre, n'est-ce pas ? cette petite, ce grain qui va germer, qui va donner une petite tige, n'est-ce pas? Il va germer, c'est déjà quelque chose, mais il n'a pas de racine, il ne s'enracine pas, il est sur un sol trop dur, il ne peut pas s'enraciner, il va sécher au soleil, et il va sécher dans le cours même de cet entretien. Ces hommes pensent toujours, n'est-ce pas, nous allons le voir, à faire de Jésus un Messie vainqueur et un Messie régnant. Donc, leur foi aussi est mélangée avec un intérêt. Voyez-vous comme toutes ces choses-là sont misérables. Leur foi est mélangée avec un intérêt. Ils ont un grand intérêt actuellement dans les temps qu'ils vivent là, n'est-ce pas, au commencement de notre ère, ils ont un vif intérêt, et leur intérêt, c'est de retrouver l'indépendance d'Israël, du royaume d'Israël, n'est-ce pas, de voir renaître le royaume d'Israël et de voir s'en aller la puissance romaine. Alors, ils feraient bien de Jésus, sont tout disposés à faire de Jésus un Messie. Après tout, il a les caractères qu'ils acceptent, mais ils voudraient le voir entrer tout de suite dans cette mission d'éviction de la puissance romaine, cette mission d'autorité temporelle s'exerçant tout de suite sur la terre et rétablissant le royaume d'Israël. Ils ont cette pensée-là très fortement imprimée en eux, c'est leur pensée de tous les jours. Alors, ils voudraient donc faire de Jésus cela, et ils ont cru avec cet intérêt. Chers amis, prenons bien garde que nous trouverons toujours devant nous des hommes ainsi, des hommes qui seront attirés par la parole de Dieu. Bien sûr, ils seront attirés si cette parole de Dieu est annoncée comme il convient, avec la force du Saint-Esprit, nécessairement elle attirera et elle intéressera bien des personnes. Vous voyez des personnes qui sortent d'une réunion ou d'un entretien, ça, ils se déclarent satisfaits, contents, oui, ah oui, j'aime bien ça, oui, vraiment, c'est bien, c'est... et puis vous les retrouvez le lendemain, tout est transformé en eux. Ils ne sont plus les mêmes, ils se sont ressaisis, ils sont fermés, c'est fini, n'est-ce pas? Ça a disparu. Ça a été un petit feu de paille, ça a été une foi qui ne s'est pas implantée et qui ne s'est pas établie sur son fondement. Elle a séché très vite, elle a disparu. Et puis, prenons garde aussi à cette foi qui est mélangée d'intérêts. Cela aussi, ceux qui ont l'habitude du témoignage, il faudrait que ce soit tout le monde, et ou du ministère évangélique, d'évangéliste, savent bien que des hommes viennent à l'évangile pour un certain intérêt. Il peut toujours y avoir un certain intérêt à venir à la parole de Dieu. Intérêt peut-être qu'offre la communauté chrétienne elle-même, intérêts divers, nous en avons vu, nous avons vu des cas, hein, de foi alliée avec un certain intérêt, eh bien, cela aussi, n'est-ce pas, c'est excessivement dangereux. C'est pourquoi il faut faire attention quand on veut exercer la charité telle qu'elle est entendue couramment, c'est-à-dire soulager quelquefois, venir tout de suite au secours de certaines misères trop flagrantes, n'est-ce pas? On peut faire quelque chose, on peut donner de l'argent à quelqu'un, on peut lui procurer des vêtements, des vivres, etc., etc. Mais, chers amis, méfiez-vous, lorsque vous ferez cela à des gens dont la foi n'est pas encore établie sur le fondement de Christ, dont la foi n'est pas franche, n'est pas enracinée, faites attention à ça, vous allez les empêcher de croire. Vous allez maintenir un mobile intérêt et vous empêcherez leur foi de s'établir. C'est tellement vrai que j'avais Peut-être eu l'occasion de voir la chose dans la pratique à Alger d'une façon plus étendue. Et j'avais dit à tous les chrétiens de mon assemblée, je leur avais dit, je vous en prie, ce n'est pas qu'il faut mépriser les misères, au contraire. Nous les secourons et nous avions une caisse qui pouvait d'ailleurs les secourir pour la bonne raison, c'est que nous n'avions pas de pasteur à payer, nous n'avions pas de frais, nous avions pas mal de rentrées d'argent et nous n'avions que le loyer d'une salle, c'était pas grand-chose. Et nous avions donc une caisse qui pouvait secourir, n'est-ce pas ? En principe, évidemment, secourir des enfants de Dieu, aider les enfants de Dieu, mais nous pouvions aussi secourir au-delà du cercle de l'Église. Eh bien, je leur disais, attention, ni avec vos propres deniers, ni avec les deniers de l'Église, nous n'allons secourir les misères qui se manifestent chez des hommes d'abord appelés. Ils sont dans cette misère depuis de longs mois, des années, souvent, n'est-ce pas ? Laissez-les encore un petit peu, si évidemment ils n'avaient absolument rien à manger, on leur donnerait, n'est-ce pas ? Mais surtout, qu'ils évitent que ce soit par intérêt qu'ils viennent à nous, qu'ils s'approchent de l'Église, et qu'ils viennent aux réunions, ou qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent les visites. Évitez que ce soit par intérêt. Évitez cela, n'est-ce pas ? Ne leur laissez pas miroiter l'intérêt, parce que vous allez les empêcher de croire. Et nous avions, hélas, c'est des expériences qui avaient démontré cela, n'est-ce pas ? Nous avons empêché certaines personnes, nous avions empêché certaines personnes de croire parce qu'elles s'étaient attachées à l'intérêt. Il y avait d'ailleurs une œuvre chrétienne qui était soutenue par Amérique, une œuvre à Alger, n'est-ce pas ? C'était soutenue par le docteur Michelson, homme de foi, homme juif venu à la foi qui avait une œuvre très importante là-bas. Alors il envoyait des vivres, il envoyait des vêtements, etc. Et on attirait, cette œuvre attirait à elle beaucoup de juifs. Nous avons vu des conférences faites et des juifs vraiment, n'est-ce pas, venant en assez grand nombre à cette œuvre. Bah, mais, chers amis, ils venaient par intérêt. Et ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu. Il y avait même un de mes jeunes, un jour, qui était là, et qui s'était un peu mêlé à la foule de ces juifs, pour voir, n'est-ce pas ? Au début, ce jeune se disait, mais c'est magnifique, il est pasteur actuellement à Aurillac, ce jeune. Eh bien, il se disait, c'est magnifique, vraiment, cette œuvre attire beaucoup de juifs, on pourrait peut-être essayer d'en faire autant, n'est-ce pas ? C'est bien, alors il était allé voir, et puis alors, il s'est un jour où il était question de baptême, il se trouvait là, n'est-ce pas, dans les rangs, et puis... il entend les juifs parler, des femmes juives parler, et puis alors la personne qui prêchait invitait ces juifs, n'est-ce pas, à venir au baptême. Il fallait que vraiment elles se décident pour le baptême, elles étaient pressées de se décider pour le baptême. Et alors le jeune a entendu ceci de la part d'une femme juive, « Oh bah, qu'est-ce que tu veux ?» ça te plaît pas, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Tu prends un bon bain, puis c'est fini, après t'auras le coup fin. Il a entendu cela. Alors il est revenu, tout tremblant, me dire, frère, c'est pas la foi chez ces gens-là, c'est pas la foi. Et il a vu que tout c'était dans ce sentiment-là, n'est-ce pas ? Un sentiment comme celui-là, l'intérêt. N'oublions pas aussi ce que nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, verset 14, chapitre 2, verset 14, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. N'est-ce pas? Si nous sommes témoins du Seigneur, l'odeur, cette odeur qui est une odeur pénétrante, qui est une puissance, qui est un attrait, n'est-ce pas? Cette odeur de la connaissance de Christ se répandra. Et le texte ajoute, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. N'est-ce pas? Nous répandons cette odeur sur des gens, et dans ces gens, il y en a qui vont être sauvés, d'autres qui vont rester dans la mort, dans leur péché, dans la mort, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. On a quelquefois tordu le sens de ce passage, chers amis, on peut faire l'exégèse de ce passage, et ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, aux uns une odeur de mort donnant la mort. Il y a des interprètes qui ont voulu qu'on leur donne la mort à eux-mêmes, n'est-ce pas, la mort avec Christ. Alors autrement dit, on les sauve de cette manière-là, n'est-ce pas? C'est absolument inexact. Le sens du texte, le sens exact du texte, c'est que, véritablement, nous donnons la mort par une parole de vérité, en répandant l'odeur de la connaissance de Christ, n'est-ce pas? Nous donnons la mort comme Christ a donné lui-même la mort à des hommes qui sont venus avec cette foi superficielle et n'ont pas voulu demeurer dans sa parole. Malheureusement, donc, ces croyants sont comme ceux que nous avons vus au chapitre 2 de Jean. Leur foi est momentanée et superficielle, elle ne s'établit pas sur le fondement avec humilité. Nous allons voir, ces hommes n'ont pas d'humilité dans le cœur, et s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien de possible. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Ça, vous ne changerez jamais rien de cela. Il résiste aux orgueilleux, il fait droit aux uns. Il faut nécessairement que tout homme, quel qu'il soit, s'humilie. Il faut nécessairement passer par l'humilité et la repentance, faute de quoi rien n'est possible. Et ces hommes vont regimber à propos précisément de la parole de Christ. La parole de Christ qui est faite pour donner le salut va pour eux être une occasion de mort. La parole d'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors voilà qu'ils sont vexés. Oh, ils ne sont pas contents du tout. Vous affranchira. Ils ne veulent pas se considérer comme esclaves. D'ailleurs, ils comprennent mal la chose. Il y a un quiproquo sur cette parole du Seigneur. Ils pensent à l'esclavage de leur condition civile. Ils pensent que le Seigneur veut leur dire, eh bien actuellement, sous le joug romain, vous êtes des esclaves de la puissance romaine. Ben, ils pensent à leur condition civile et non pas à leur âme, hein, et non pas à leur état de péché. Alors, ils ne veulent pas se considérer comme esclaves. En réalité, ils le sont tout de même, n'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas se considérer comme tels. Et ils ne supportent pas que Jésus les taxe d'être des esclaves de Rome. Et c'est pourquoi ils vont dire, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Avec orgueil, n'est-ce pas? Vous voyez, ces gens qui ont cru, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Est-ce que nous avons besoin, nous, d'être libérés? Nous sommes libres, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ce qui est faux, archi faux, ils sont aveuglés, ils ne voient même pas la réalité du passé du peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël fut esclave 430 ans en Égypte, 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Il fut esclave en Égypte, et c'est Dieu, par Moïse, qui les délivra de cet esclavage qui était lourd, et ils n'y pensent plus à ça. Et pourtant, s'ils y pensaient, cela pourrait peut-être les amener à plus d'humilité, n'est-ce pas? Et à considérer qu'il y a, répondant à cet ancien esclavage en Égypte, un esclavage qui dure toujours, c'est celui que fait supporter le péché, comme Jésus le leur dira. Et puis, du temps des juges, mais ils avaient été esclaves, ah non, ils avaient été esclaves des peuples d'alentour. Ils avaient été supporter le joug au cours de leur histoire, même au-delà de la période des juges, supporter le joug de la Syrie, supporter le joug des Philistins à certains moments. Ils avaient été d'authentiques esclaves dans leur moment, n'est-ce pas, d'incrédulité, de mauvais comportement, d'abandon de la parole de Dieu et d'ouverture à l'idolâtrie. Lorsqu'ils avaient été ainsi, abandonnant la fidélité, ils étaient tombés sous l'esclavage. C'était donc faux. Ils avaient été esclaves. Nous ne fûmes jamais esclaves. Quel orgueil. Voyez, cet orgueil est là quand vous avez, n'est-ce pas, devant vous quelqu'un dont le cœur est orgueilleux. Là, il faut savoir que le travail n'est pas fait. J'ai entendu un jour un évangéliste qui parlait justement avec un homme. On sentait cet homme, n'est-ce pas, bien établi sur sa position. Il était sûr de lui, sûr de l'homme, etc. Mais l'évangile l'intéressait, c'était quelque chose de bien. Et après un petit discours comme ça, fait par l'évangéliste, cet évangéliste lui a déclaré, « Eh bien maintenant, vous croyez au Seigneur Jésus, eh bien vous êtes sauvés. » Chers amis, mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Cet homme n'avait rien concédé de sa position, rien du tout. Il ne pouvait pas être né de nouveau. Il ne pouvait pas être sauvé. Alors, prenons garde à cela de ne pas aller déclarer à quelqu'un. Vous avez cru, oui, vous croyez l'évangile, vous croyez ce qu'il y a d'écrit là? Oh oui, oui, oui. Et alors, vous êtes sauvés. Oh, chers amis, ça, c'est pas du travail. Et est-ce que Jésus travaille ainsi? Nous allons voir. La liberté dont ils se targuent, ces gens-là, est une simple liberté civile, et encore, c'est une liberté prétendue, parce que la liberté civile, sous la puissance romaine, ils ne l'ont pas. N'est-ce pas? Ils sont bel et bien obligés de se courber. Seulement, n'est-ce pas, Rome leur avait laissé, tant qu'ils ne bougeaient pas, tant qu'ils se comportaient en citoyens assez réguliers, il leur avait laissé une certaine liberté dans l'exercice du culte. Alors, ils en prenaient motif pour dire qu'ils étaient libres, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Donc, ils s'offusquent d'une parole de Jésus qui est une parole de salut. Et cette parole de salut, ben, cette odeur de vie, c'est une odeur de la connaissance de Jésus, et ça, cette odeur va devenir pour eux une odeur de mort. Donnant la mort. Parce que ces hommes, n'est-ce pas, ne veulent pas se laisser affranchir, sortir de la mort, eh bien, la parole va être pour eux une parole donnant la mort. Et c'est ce qui explique la suite du passage dans lequel Jésus va leur dire, vous savez, quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre, vous avez pour père le diable. Je ne vous vois pas, mes amis, évangéliser, hein, et disant aux gens à qui vous parlez, vous avez pour père le diable, hein, mais il y a des moments, vous voyez, où, et bien sûr, il faut que ce soit l'esprit qu'ils disent par la bouche d'un homme. Jésus va préciser que c'est de l'esclavage du péché qu'il a parlé. Le péché étant, en effet, un joug redoutable dont l'homme ne peut pas s'affranchir. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, vous êtes esclave du péché, Mais ne croyez pas que ce soit parce que quelque chose vous manque, parce que vous êtes ainsi, parce que c'est une fatalité, parce que vous n'y pouvez rien. Non, c'est parce que vous vous livrez au péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est parce que vous vous livrez. Votre responsabilité est donc engagée. N'acceptons pas non plus, chers amis, que l'homme pécheur, n'est-ce pas, soit considéré comme irresponsable. Il est responsable. Il se livre au péché. Et il s'abandonne au péché en cédant à la séduction du péché, n'est-ce pas? Il faut bien dire que le péché trouve un terrain favorable, c'est cette affreuse nature humaine. Cette abominable nature humaine, la nature humaine déchue, même si elle a des dehors qui l'avantagent, des apparences extérieures, c'est une abominable nature, la nature humaine. La vôtre, la mienne, tout. Il n'y a personne qui a échappé à cela, n'est-ce pas? C'est une nature abominable, abominable. Et ce que le Seigneur a Jésus, le Seigneur Jésus a sauvé, ça, ce qu'il est venu sauver sur la terre, eh bien, c'est une nature humaine abominable. Je suis venu sauver ce qui était perdu, perdu, une nature abominable. Eh bien, cette nature, évidemment, n'est-ce pas, cède à la séduction du péché, elle ne peut pas dominer sur lui, mais là où intervient la responsabilité, c'est que l'homme, s'il était de Dieu, expression que le Seigneur va employer, s'il était de Dieu, alors Dieu aurait mis quelque chose toujours à sa disposition, a toujours quelque chose à sa disposition. Quel que soit le temps, il y aurait eu quelque chose à sa disposition. Maintenant, il y a Christ, il y a salut par Christ à sa disposition. Et cet homme, s'il est de Dieu, naturellement, il va venir, et c'est là qu'il va être affranchi du péché. Dans les versets suivants, versets 35 et 36, le Seigneur va donner une expression toute simple, toute concise à son enseignement. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, c'est le verset 35, c'est une sorte de parabole. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est-à-dire, l'esclave n'est pas celui que le maître de la maison garde à lui. Il peut le vendre. Ça, des esclaves, ça se vend. Il y a un marché d'esclaves, il peut le vendre. Où il peut le renvoyer. Donc, le maître ne va pas garder un esclave toujours dans la maison. Mais, pour rester dans cette maison, sans en être jamais chassé, il faut être le fils de la maison. Le fils, lui, n'est jamais chassé. Voilà déjà un enseignement par lequel Jésus veut leur montrer que, vraiment, pour rester dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, il faut ne pas avoir la condition d'esclave, mais avoir celle de fils. Et puis, dans le verset 36, sur le mot fils, le Seigneur, alors, fait, si vous voulez, un bon, n'est-ce pas, de fils de cette petite parabole du verset 35, il vient à la notion de fils, qui est lui-même le grand fils, le fils unique, venu du Père, le Messie, n'est-ce pas? Eh bien, ce Messie, ce Fils venu du Père, a le pouvoir d'affranchir des esclaves, qui alors vont devenir aussi des fils jouissant de liberté. Nous avons ici, en somme, cet enseignement que va reprendre l'apôtre Paul plus tard, et qui est celui-ci, Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui va montrer l'égarement des Juifs, c'est que, étant les descendants d'Abraham, on ne peut pas nier cela, le Seigneur ne nie pas qu'ils soient les descendants d'Abraham, cependant, ils cherchent à faire mourir le Fils, celui qui est venu du Père. Et on pourrait dire qu'il cherche à faire mourir le fils par excellence d'Abraham, car Jésus est un fils d'Abraham. Et on pourrait dire qu'il est le fils, le grand fils de la promesse, dont Isaac n'était que le type. Il est, lui, le fils promis. Le fils promis, c'est bien lui, n'est-ce pas? Eh bien, ce fils, il cherche à le faire mourir, ce qui est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Qui sont les descendants d'Abraham? Il faut mourir son fils. Ça, Jésus consent, n'est-ce pas, à se placer là, comme dans la position du fils de la promesse. Si vraiment il connaissait Abraham, est-ce qu'il tuerait son fils? Celui qui apporte l'accomplissement des promesses faites à Abraham, c'est une anomalie, quelque chose d'incompréhensible. Et cela est parce que la parole de Jésus n'est pas acceptée au fond des cœurs et que l'on ne s'attache pas à cette parole. Ne s'attachant pas à cette parole, il ne voit pas que ce fils, c'est le grand-fils de la promesse. C'est lui qui vient accomplir la promesse, n'est-ce pas ? Beaucoup plus qu'Isaac, et il est donc lui aussi, par la chair, le descendant d'Abraham. Jésus va donc de plus en plus leur tenir un langage net et sévère. Et dans le verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » En somme, Jésus fait deux parts. Lui d'un côté, eux de l'autre. Et ils n'ont pas le même père. Jésus a un père, eux, ils ont un père, mais ce n'est pas le même. Ils n'ont pas le même père. Chacun prend inspiration auprès de son propre père, dans sa propre maison. Enfin, Jésus, lui, dit ce qu'il a vu chez son père, et son père c'est le vrai Dieu, eux, ils agissent selon les suggestions de celui qui est actuellement leur père, le Seigneur va le nommer un peu plus loin, le diable. Il y a alors, en somme, derrière tout homme, tenant tout homme, il y a soit une... le monde des ténèbres, soit le monde de la lumière. Et on ne peut pas être à cheval, on ne peut pas être entre les deux mondes, on est nécessairement tenu par l'un ou l'autre monde. On ne pouvait pas servir deux maîtres à la fois. Alors, on tire ou son inspiration du monde auquel on appartient, c'est-à-dire, n'est-ce pas, on est l'héritier, on est le continuateur de tout ce qui s'est fait sur la terre, dans le monde des ténèbres, ou bien alors on est le continuateur d'Abraham, l'homme de foi, le père des croyants, et on est dans le monde de la lumière. Et on parle chacun selon ce qu'on a vu et entendu dans sa propre maison. Alors, chers amis, voyez comme toutes ces choses sont nettes, et comme il faut qu'elles soient nettes au milieu des chrétiens, pourrions-nous dire de quelle maison sommes-nous ? Il faut que nous soyons de la maison du Père. Et si nous sommes de la maison du Père, nous avons à faire ce que nous avons vu et entendu dans la maison du Père, et pas dans la maison de Satan. Il n'y a rien donc, n'est-ce pas, qui devrait être fait et qui provienne du monde des ténèbres. Nous devrions être affranchis pleinement et faire ce que nous avons vu faire au Seigneur Jésus. C'est lui qui nous montre ce qui est fait dans la maison du Père. Un homme, donc, ne peut dire et faire que ce qu'il voit et entend, là où il a ses attaches. Il a ses attaches où ? Dans les ténèbres, il appartient aux ténèbres, et il accomplira les œuvres mortes et destructrices qui sont la caractéristique des ténèbres, ou bien alors il appartient à Dieu, n'est-ce pas ? Dieu est vraiment son Père, et alors il fera les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres préparées d'avance par le Père. Voyons combien cette expression d'œuvre préparée d'avance est importante, utile. Les œuvres de la maison du Père, ce sont ces œuvres-là qu'il fera. Combien donc il est indispensable que Dieu soit notre Père. Jésus a dit « Mon Père maintenant est votre Père ». Il faut que Dieu soit notre Père, vraiment. Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, mais Jésus lui-même veut que nous ayons Dieu pour Père. Pas celui, il est notre frère, si vous voulez, mais Dieu est notre Père. Et le Seigneur le veut. Et nous avons eu l'occasion d'étudier, n'est-ce pas, la prière. Il faut que la prière soit adressée à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en passant par Jésus-Christ et par tout ce qui peut purifier la prière et lui donner sa réalité. Le Seigneur Jésus va leur dire... Alors qu'ils disent « Notre Père, c'est Abraham », Jésus va leur répondre « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et cela veut dire « Vous auriez la conduite d'Abraham. » Voyez que « œuvre » ici signifie plutôt « conduite ». Attention que « œuvre » veut dire souvent « conduite ». Il y a dans les œuvres une grande part. Ne parlons pas d'œuvre s'il n'y a pas d'abord la conduite. Au centre des œuvres bonnes, des bonnes œuvres, il y a la conduite nouvelle de l'enfant de Dieu. La bonne conduite en face du monde païen. Eh bien, là, vous auriez la conduite d'Abraham. Vous agiriez dans la même ligne de foi que lui, qu'Abraham, avec la même pénétration qui était la sienne des voies de Dieu. Vous agiriez comme ça. Mais comme vous n'agissez pas, vous démontrez vous-même que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Abraham leur dira Jésus, dans son lointain passé, n'a pas lutté contre Dieu. Il n'a pas lutté contre la vérité. Il n'a pas lutté contre le don d'un fils de la promesse, puisque bien au-delà des circonstances qui furent celles de sa vie, n'est-ce pas, des épreuves dans lesquelles il eut à triompher par la foi, la naissance de ce fils Isaac, bien au-delà, Abraham avait salué le jour d'un lointain fils. Il avait salué le jour de Christ, et bien entendu, il était loin de se faire le meurtrier de ce fils, tandis que ses interlocuteurs, ils voulaient le faire mourir, se faire les meurtriers du grand-fils de la promesse. Enfin, c'était quelque chose d'inconcevable. Il faut voir, n'est-ce pas, la force de cet exposé du Seigneur Jésus et comment, malgré tout, les Juifs pouvaient en ressentir la force, n'est-ce pas ? Avec encore plus d'honnêteté, Jésus va leur montrer que leur conduite actuelle et leur refus de l'accepter lui-même et de l'aimer prouve que Dieu n'est pas leur Père. Car tout vrai enfant de Dieu ne peut qu'aimer le Fils et garder sa parole. Nous avons ici une préparation de ce que Jésus va énoncer plus loin dans cet évangile. Celui qui aime le Fils, qui m'aime et qui garde ma parole, celui-là sera aimé de mon Père, n'est-ce pas ? Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, il y a la communion. Ben, celui-là, il est adopté, c'est un fils adopté. Mais un véritable enfant de Dieu, ben, celui qui est vraiment enfant de Dieu, qui est de Dieu, ne peut que venir au Fils, aimer le Fils et garder sa parole. Tout est préparé dans le dessein de Dieu, encore toujours aujourd'hui, bien sûr, et jusqu'à ce que Dieu révoque cela et fasse autrement, n'est-ce pas, arrête le temps de la grâce, mais encore aujourd'hui, tout est prêt pour que tout homme qui est de Dieu, qui vraiment, sincèrement est de Dieu, veut s'humilier à la crainte de Dieu, n'est-ce pas, vienne au Fils. Tout est préparé pour ça, mes amis, n'ont pas de soucis à nous faire. N'ont pas de grandes démonstrations à faire, nous avons à annoncer la parole de Dieu avec autorité et foi. Ils ne peuvent pas écouter la parole du Seigneur, non pas parce que Dieu les tient dans une incapacité de le faire, non pas parce qu'il leur manque quelque chose, parce que la création les a privés d'un organe qui leur permettrait de croire, non pas, c'est pas ce que Jésus veut dire, mais ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu à cause de leur attachement aux œuvres mauvaises. Ils sont liés à l'inspirateur du mal, qui est l'ennemi de la vérité. Ils sont donc sourds et aveugles. Et c'est alors que, subitement, Dieu va leur dire, « Vous avez pour père le diable. » Et là, nous pouvons voir, n'est-ce pas, que le Seigneur n'use d'aucune atténuation, d'aucune forme de langage, d'aucun ménagement, hein, mais va dévoiler ex abrupto la réalité, si sombre soit-elle. Il va révéler cette réalité. Pas d'atténuation, pas de ménagement, absolument rien. Vous avez pour père le diable. C'est la vérité. C'est la réalité. Jésus l'énonce. Chers amis, je dois vous dire d'ailleurs que ce soit dans l'Église ou que ce soit en dehors de l'Église, d'user de ménagement, ça c'est une précaution humaine. C'est la sagesse du langage, c'est peut-être parce qu'on a peur de heurter les gens, mais il faut les heurter. Si vous présentez votre épée dans un fourreau, c'est plus une épée, elle ne fait pas peur dans un fourreau. Moi, ça m'est égal quand on me donne un coup sur le dos avec une épée qui est dans son fourreau. Ça fera peut-être un peu de mal, mais ça va pas me tuer. Si l'épée est en dehors de son fourreau, doucement, pas. L'épée est une chose à craindre. Et il faut qu'il en soit ainsi de la parole de Dieu. Les chrétiens dans l'Église ne désirent pas entendre des paroles doucereuses, des paroles qui sont enrobés dans toutes sortes de précautions oratoires, toutes sortes de ménagements. Non, ils ne désirent pas cela. Ils désirent qu'on leur donne la vérité. N'est-ce pas? Mais qu'on leur dise aussi, attention, peut-être ça vous paraît énorme ce que Dieu vous demande. Ça vous paraît terrible. Oui, ça l'est. Ben, vous avez la grâce, n'est-ce pas? Et il faut que les chrétiens connaissent le prix de la grâce, connaissent la puissance de la grâce, l'importance de saisir la grâce par la foi. Et si vous leur dites, oh, bah, votre vie chrétienne, oui, soyez bien gentils, allons, mes petits-enfants, conduisez-vous un peu mieux, etc., n'est-ce pas? Jamais vous ne les amènerez à user de la grâce. Et il faut amener l'Église à user de la grâce à son désir. Sans ça, il n'y a rien de fait, quelle que soit la personne, serait-elle la personne la plus capable de moralité, la plus capable de discipline, elle ne sera jamais un véritable enfant de Dieu si elle n'use pas de la grâce. Parce qu'il faut bien savoir, il n'y a pas moyen autrement. Alors il faut apprendre. Et c'est pourquoi quand je vous parle sévèrement, et vous voyez, n'est-ce pas, je ne ménage pas non plus mes paroles, je vous parle sévèrement, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas non plus pour vous décourager, ce n'est pas pour vous pour être méchant avec vous, mais c'est parce que la parole doit être laissée avec tous ses angles, tout son tranchant. Et c'est ainsi que vous comprendrez le besoin que vous avez de la grâce, que vous saisirez cette grâce qui est venue par Jésus-Christ et dont la disposition vous est laissée en lui, en Jésus, vous avez tout pleinement en lui, vous n'avez qu'à prendre facilement, n'est-ce pas? Et alors là, vous allez monter, vous allez vous sanctifier, vous allez réaliser les progrès. Vous ne serez plus une religion des gens religieux, mais vous serez des enfants de Dieu engagés dans la voie de la perfection. Enfin, le Seigneur va parler du diable, qui est le meurtrier dès le commencement, ce qui veut dire que le diable, dès qu'il se fut écarté de la justice de Dieu, du grand ordre dans lequel il était lui-même, autrefois inclus comme chérubin protecteur aux ailes déployées, dès ce moment-là, il est devenu meurtrier. Et chers amis, Il est devenu meurtrier en ce qui concerne l'humanité le jour où il a séduit Ève et Adam. Ce jour-là, alors là, il a fait un acte de meurtrier. Mais la parole peut-être de Jean, peut-être peut remonter plus loin. Il a été le meurtrier des anges. Car les anges iront dans ce qui s'appelle la mort, dont on ne revient pas. Ils iront, tous les anges qui ont suivi Satan, n'est-ce pas, le tiers des anges, ils iront dans l'étang de feu, avec lui, avec leur maître. Donc, il les a entraînés dans l'avant. Il a été le meurtrier, chers amis. Nous ne pouvons pas, il faut que nous sachions cela, nous ne pouvons pas sortir de la justice de Dieu, c'est-à-dire de l'obéissance à ses lois, à sa parole, pour pas sortir de cet état de justice, sans devenir, nous aussi, des meurtriers. Ça peut vous étonner. Ben, lisez la parole, et vous verrez que, dès que nous quittons l'état de justice, nous faisons du mal, nous travaillons pour la mort, nous travaillons pour le royaume de la mort. Nous nous associons aux œuvres de la mort. Et nous sommes des meurtriers. Comment seriez-vous estimé, jugé, qualifié si vous aviez été tant soit peu complice dans un meurtre qui aurait été commis par un autre? Essayez de regarder un petit peu le code pénal. Et vous verrez que le code pénal fera de vous un complice et que vous serez passible d'une condamnation pour crime. Vous aurez commis un crime, rien qu'en étant complice du meurtrier lui-même. C'est pas vous qui aurez, mettons, manié le revolver ou le couteau, mais si vous êtes complice, et si seulement vous avez ouvert la porte au meurtrier pour qu'il rentre dans la maison, vous serez condamné au même titre que lui. Et chers amis, je vous le dis, c'est rigoureux la parole de Dieu. On ne peut pas sortir de la justice de Dieu sans participer aux œuvres de Satan et être comme lui, meurtrier. Parce que, hors de la justice de Dieu, la vie ne se conserve plus. La vie est frappée. Il faut savoir ça, en dehors de la justice de Dieu. La justice conduit à la vie. C'est le livre des Proverbes, lisez ce livre des Proverbes qui est si magnifique. N'est-ce pas? La justice conduit à la vie. La justice conduit à la vie. Et la méchanceté et l'iniquité, ça conduit à la mort. Nécessairement. Et si donc je délivre des paroles de mort, si je suis un exemple d'iniquité pour les autres, si je suis le mauvais exemple, si j'entraîne les autres, je suis moi aussi un meurtrier. Si j'amène des gens à l'enfer, je suis un meurtrier. Et combien il y en a de meurtriers aujourd'hui sur la terre, n'est-ce pas? Tous les gens qui vous donnent des mauvais conseils, tous ceux qui aujourd'hui, je pense à tous ceux qui ont la jeunesse en main et qui incitent la jeunesse aux mauvaises choses. Vous avez des enseignants qui ont donné des drogues à des enfants, qui ont même dit il faut, mais oui, en Amérique et en France, et qui ont dit à des enfants de 15 ans, mes amis, il va falloir éduquer vos parents, parce que eux aussi, mais ça leur ferait du bien, ça les sortirait un petit peu de leur vieillerie et de leur vieilles idées. Alors, dites-leur, montrez-leur qu'il faut user de la drogue, etc. Tous ceux qui auront dit ça, tous ceux qui auront ouvert la voie de l'immoralité, la voie de la contestation à Dieu, chose encore plus grave que tout, parce que c'est la chose la plus grave. Tout cela sont des meurtriers, mes amis, aux yeux de Dieu. Ce sont des meurtriers. Pensons à cela que nous devons être, nous, des témoins pour la vie, apportant la vie. Ah, je ne vis pas en vivant nous-mêmes d'une vie véritable. Et n'oublions jamais que le mensonge, et alors aujourd'hui, dans ce monde, c'est une couverture énorme. Le mensonge est allié avec la mort. Mensonge et mort vont ensemble. Vérité et vie vont ensemble. Mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, aller à la vie si vous n'avez pas la vérité.
Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut passer par ça. Vous ne pouvez pas aller à la vie, elle est derrière la vérité. Il faut d'abord prendre la vérité. Il faut prendre le chemin dans lequel il y a la vérité et dans lequel il y a ensuite la vie. C'est ça. Cet ordre-là nous montre qu'il est impossible de toucher à la vie, d'avoir la vie, sans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une question, une affaire doctrinale. Nous aurons l'occasion de... Je voudrais d'ailleurs vous faire une étude sur la vérité. Et vous verrez que la vérité, c'est un état de choses, la vérité. Et la vérité, dans la révélation de Dieu, est une personne et un état de choses. C'est ça la vérité. C'est pas une doctrine. Bien des gens voudraient mettre au point leur doctrine, la fignoler, là. Avoir une doctrine, là, tout à fait magnifique. Tant de gens ont voulu s'y employer. Ah, les darbistes ont écrit, je sais combien de livres pour arriver à mettre au point leur doctrine, n'est-ce pas? Puis ils se sont trompés, comme bien d'autres. Et puis, toutes sortes de choses, de tentatives ont été faites. Une doctrine, c'est à cela, la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité est en mouvement. Elle est toujours un mouvement de la vie. Elle est un climat de la vie. Elle n'est pas une doctrine seulement. Et la doctrine hors de ce climat est quelque chose qui meurt. Comme la manne, quand elle a dépassé le jour où on doit la consommer, ça devient infect et il s'y met des vers. Eh bien, dans la suite du passage, nous avons beaucoup de choses que nous avons eu l'occasion de revenir et je ne vais pas m'y arrêter en détail, l'heure d'ailleurs nous pressante un peu. Ce qui termine le passage que nous avons lu, nous voyons Jésus offrir en lui-même la vue des œuvres de Dieu. Alors, qui me convaincra de péché? Qui trouvera en moi le péché? Il va donc s'offrir lui-même, offrir sa personne, sa conduite, son comportement, son travail, ses œuvres, ses paroles, comme la vue sur les œuvres de Dieu. Il est libre de tout péché. Celui qui est de Dieu, eh bien, ne peut pas manquer de l'écouter. Nous oublions trop souvent cela. Chers amis, il faut présenter le Christ qui est la vérité, mais non pas une vérité doctrinale, qui est une vérité dans toute sa personne, dans toutes les actions où nous le voyons, dans toutes ses paroles, bien sûr, n'est-ce pas? Il est la vérité, et celui qui est de Dieu se laisse gagner par la vérité qu'est le Christ, le Seigneur. Et les interlocuteurs de Jésus, alors là, ces interlocuteurs dont il nous était dit au commencement qu'ils crurent, vont se démasquer, ils vont répondre par des insultes et lui dire « Maintenant, nous voyons bien que tu as un démon, pas ?» Comme Jésus n'est pas venu à eux, eux ne viennent pas à Jésus, et alors ils s'insurgent contre lui et l'insultent. Et puis, le Seigneur Jésus va leur dire que Abraham, votre père, c'est-à-dire celui alors dont vous êtes issu par la chair, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'en est réjoui. Le jour, là, n'est-ce pas, où Abraham a vu le jour de Christ, c'est sa rencontre avec Melchisédek qui était rendu semblable au Fils de Dieu. Et Abraham, par la révélation d'en haut, a compris cela. Il a fait la Sainte Cène avant tout le monde. Il a mangé le pain, il a bu le vin avec ce personnage magnifique, extraordinaire, qui est Melchisédek, et dont, hélas, certains commentateurs ont parlé avec tant d'incrédulité, disons, et de légèreté. Melchisédek, la manifestation du Fils de Dieu avant le temps, un personnage qui vient là, Dieu ne peut pas jurer par un autre, il ne peut pas faire apporter à Abraham ce serment, et ce serment c'était quoi?
Eh bien, toutes les promesses que je t'ai données, Abraham, toutes ces promesses, ça ne vaudrait rien si je m'y mettais, si je n'y attachais quelque chose. Et ce quelque chose, voilà, c'est représenté par le pain et le vin. Ce quelque chose, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice, eh bien, je fais serment entre tes mains, je dépose serment pour toi et toute ta postérité, cette postérité qui envahira la nation dont je t'ai parlé, dont je t'ai fait la promesse. Eh bien, cette postérité-là, je la sauverai, sera bénie à cause de toi, à partir de toi. Cette postérité sera bénie. Et pourquoi? Parce que je fais le serment d'apporter, quand le temps viendra, le sacrifice. J'apporterai un sacrifice. Et ce sacrifice, alors il fallait que ce fût représenté là par ce qui deviendra à partir de la présence de Jésus, de cette veille mémorable de Jésus au milieu des douze, qui deviendra la scène, la sainte scène. Eh bien, Melchisédek, donc, c'est l'envoyé de Dieu, c'est un envoyé mystérieux, certes, était-ce un ange qui avait reçu cette mission, était... nous le savons, le texte ne nous le dit pas, nous savons simplement qu'il faut regarder ce personnage comme n'ayant ni commencement de jour, ni fin de jour, plus grand que n'importe lequel, parce que Dieu ne peut pas jurer par un autre que lui-même. Il ne peut pas faire venir là un officier ministériel pour signer le contrat avec Abraham, parce qu'un officier ministériel serait plus petit. Il faut que l'officier ministériel, que Melchisédek, soit égal à Dieu. Alors il envoie ce personnage. Mes chers amis, si nous avions de la foi, nous aussi nous saluerions ces choses, nous nous réjouirions de toutes ces choses, et nous comprendrions tout cela sans jamais oser apporter la plus petite observation, le plus petit raisonnement au milieu de tout cela. Melchisédek, c'était donc l'envoyé de Dieu pour sceller ce serment entre les mains d'Abraham. Ta postérité, cette postérité que je te dis, eh bien, il lui faut un sacrifice. Et ce sacrifice, je m'engage entre tes mains, et pour elle tout entière, pour cette postérité tout entière, à toi, pour que j'ai fait dépositaire des promesses, devant toi, je m'engage solennellement à apporter le prix. Voilà comment Abraham a vu le jour de Christ, et comment il s'en est réjoui par avance, étant appelé lui, bien avant nous, bien avant l'Église, à faire la Sainte Cène. Et vous comprenez qu'il est le Père des croyants, il a été désigné ainsi, et que nous sommes son héritage, nous sommes l'héritage spirituel qui a été là, placé là, entre les mains de cet homme par la volonté même de Dieu. Il est le point de départ de tout cela, le point de départ de cette œuvre grandiose. Et il s'est réjoui de ce que le fils de la promesse, le grand-fils de la promesse, viendrait. Bien sûr, cela, les Juifs ne peuvent pas le comprendre. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Alors là, le Seigneur ne va leur faire que la réponse qu'il faut. La parole dite à Moïse, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham pût, je suis Yahvé, n'est-ce pas? Yahvé, ben Yahvé, c'est moi. Il se découvre, Yahvé, vous l'avez devant vous, Yahvé. Et il ne le voit pas, il ne voit pas qu'ils ont l'Éternel, le Père éternel, devant eux. Ah, chers amis, que ce ne soit pas notre cas et que nous voyons, nous, le Père éternel, si nous ne le voyons pas de nos yeux maintenant, chers amis, voyons-le et voyons-le dans la personne de Jésus, notre Maître. Amen.